Je dirais qu'aller en Sicile à cette époque-ci, maintenant, ce n'est pas bien difficile. Vous prenez un billet d'avion, vous allez à Roissy, et puis 2h30 plus tard, eh bien, vous êtes arrivé à Palerme. Et là, eh bien, un quart de tourisme va vous promener à travers toute l'île en quelques temps, et avec un guide qui vous donnera toutes les explications. Mais à la fin du 19e siècle, il en était tout autrement. Et si vous le voulez bien, nous allons suivre celui que j'appellerai notre héros, qui va nous emmener faire un tour en Sicile. Alors, il ne visitera pas toute la Sicile, mais enfin, il en fera une certaine partie, et puis il a rencontré quand même, il a appris pas mal de choses pendant ce voyage. Il a embarqué en fait à Marseille le 22 août 1892, dans l'après-midi, sur un bateau de la compagnie Atlantique. Le capitaine a dit « Vent du Nord, mer houleuse, il fait beau, tout va bien. » Alors, il remarque quand même qu'il faisait très chaud. Vers 8 heures du soir, on ne voit plus que la mer de tous côtés. Le 23 à 4h30 du matin, notre héros monte sur le pont pour voir le lever du soleil. Et il nous donne une description de ce lever du soleil. « J'ai guetté longtemps ce soleil qui se lève. » L'Orient, rougeâtre depuis une demi-heure, est passé au jaune très fin. La mer ondule, jaune et azur à l'infini. Les deux couleurs se déplacent et se succèdent au gré des houles. Elles sont la joie et la vie revenue. Tout à coup, une gerbe de rayons rouges s'élance en un point du cercle. Une ligne de feu paraît au-dessous, puis un arc, puis un globe énorme couleur d'orange. Des brumes qui flottaient inaperçues au ras de l'horizon se teignent de mauve tendre. La surface de l'eau demeure azur et jaune. Seulement une raie de pourpre, droite et tremblante, vient jusqu'à nous. Le navire longe les côtes de Sardaigne, visible au loin, une grande partie de la journée. Et ce n'est que le lendemain matin qu'il arrive, vous voyez, voilà, il est parti de Marseille, ils ont longé ici, et il arrive dans la baie de Tunis, effectivement. Là, il va faire escale, et il aperçoit, au passage, le cap de Carthage, au sommet duquel se trouve un village perché. Le navire jette l'ancre au milieu de la rade, voilà cette rade de Tunis, hein, donc c'est au milieu de cette rade que l'ancre est jetée, et une chaloupe à vapeur va emmener les passagers à la Goulette qui est le port de Tunis qui se trouve ici. Et tout le monde à la Goulette, il s'aperçoit que tout le monde parle italien. De la Goulette, on voit au fond une ville blanche lointaine, la nouvelle capitale française, Tunis. Un colon français dit à haute voix que lorsque la France aura fortifié Bizerte, Malte elle-même ne sera plus rien. Nous aurons le premier port qui commande l'Orient. Voyez. La première impression de notre héros débarquant à la Goulette est la suivante. 2 juives en costume, pantalon blanc collant, veste de soie courte et bouffante. L'une bleue, l'autre rose. Une petite mitre noire sur la tête. Elle se dandine et son grâce affreusement. Nous passons. La chaloupe tourne à droite dans un chenal encaissé et nous accostons devant des baraquements. C'est l'endroit où ça se trouve. Devant des baraquements où sont debout, assis, couchés, tous immobiles et nous regardant, des hommes à burnous, à turbans, de toutes les couleurs. Arabes, juifs, turcs, levantins, nègres et moricots de 20 races, ayant le regard à demi éteint et impassible. Ils ne vendent rien, ils ne font rien, ils n'aident à rien, ils sont là. Nous sommes quelque chose qui traverse la voie devant eux. Ils ne se détournent même pas pour nous suivre. Ils attendent que la chaloupe reparte. Voilà la pression qu'il a en arrivant à la Goulette. Il monte à pied jusqu'à la gare où un train voilà le type de train qu'il y avait à l'époque, l'emmène à Tunis en contournant un grand lac où il admire les flamands qui s'y trouvent. Il y a effectivement un grand lac entre la Goulette et Tunis. À Tunis, il est frappé par le contraste entre l'aspect très européen, voilà l'aspect très européen qu'il note, avec des boulevards, des promenades, des magasins, des voitures, et puis le monde tunisien, avec des chameliers, des mendiants, des ruelles étroites, et des échoppes, et puis des enfants qui proposent de nous guider partout. Mais ce n'est qu'une visite éclair, car il reprend le train afin de retourner au navire qui repart le lendemain à 11h. Le navire double alors le Cap Bon, il était donc arrivé ici, et il va doubler le Cap Bon, pour se diriger vers Malte, où il va arriver par un canal aux rives escarpées à La Valette, ville moyenâgeuse avec sa vieille forteresse, sa vieille forteresse des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers de Malte. Tout ici est en pierre blanc-jaune avec le ciel et la mer qui sont bleus. Dans le port, il y a des gondoles qui sont vertes, jaunes, rouges et non pas. Hein, ça n'a pas passé. Voilà. Des gondoles vertes, jaunes, rouges, donc, mais et non pas noires comme à Venise. Hein, c'est tout à fait différent. Les formalités de débarquement sont longues, en particulier à cause d'un petit homme de service de santé qui, sous prétexte que Malte a été éprouvée par le choléra lors de la dernière épidémie, il exigeait jusqu'à présent que chaque passager jurât sur le crucifix n'avoir pas touché le plus petit port espagnol depuis moins de 3 mois. Pour cette fois, les menaces du fléau étant diminuées, il se contentera d'une simple affirmation. Alors, un coche va emmener notre héros en haut de la colline. Pardon, c'est sur le, vous le voyez sur la précédente, je ne vais pas la repasser. En haut de la colline, donc, où se trouve le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur, le voilà. Hein, et de la garde anglaise. Hein, n'oublions pas que Malte, c'est anglais à l'époque. Il observe au coin des rues des statues de saints avec une lampe qui brûle, mais aussi des têtes de cornes avec les cornes de bœuf. Car ici, foi et superstition se mêlent pour conjurer ce qu'ils appellent la dietatura, c'est-à-dire le mauvais sort. Il remarque aussi que les femmes brunes y sont belles. Et le mercredi, elles sont toutes vêtues de brun, qui est la couleur de Notre-Dame du Carmel. Et la tête couverte de la faldetta, c'est-à-dire d'une mantille noire. Et même ce jour-là, les dames de petite vertu ferment leurs portes pour ne pas faire de peine à la Madone, qui aurait trop de déplaisir. Les Maltais sont d'ailleurs fiers de leurs femmes que les officiers anglais sont priés de bien respecter. Les Maltais sont très pieux et le matin, ils passent à l'église s'agenouiller avant d'aller travailler. On pourrait se croire en Italie, mais les Maltais n'aiment pas les Italiens, même s'ils parlent leur langue, qui est d'ailleurs un mélange d'italien, d'arabe et d'hébreu. En revanche, ils aiment la France, ce qui date du temps des chevaliers. D'autant que la France est la nation catholique par excellence. Ils aiment tant la France qu'ils vont crier « Vive la France !» sous les fenêtres du palais du gouverneur quand ils ne sont pas contents de décisions prises par la reine Victoria. Mais ne nous attardons pas sur les 2 journées qu'il passa à visiter l'île, du moins la Città Vecchia, l'ancienne capitale, et ses murailles où se trouve le palais du gouverneur. Gouverneur qui mène là d'ailleurs une véritable sinécure, dans un palais grandiose où notre héros fut accueilli le 2e jour de son séjour. C'est ainsi qu'il apprend qu'à Malte, on enseigne bien sûr l'anglais, mais qu'on n'arrive pas à imposer cette langue car les instituteurs sont catholiques. Et on y apprend mieux l'italien et surtout le dialecte maltais. Le soir de la visite chez le gouverneur, il reprend le bateau qui se dirige vers la Sicile. Alors, il était arrivé à Malte, hein, qui se trouve là, et il va reprendre le bateau pour aller vers la Sicile cette fois. Oui, on n'allait pas très vite, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, en 2h30 on était là-bas. Là, vous voyez que c'est un petit peu plus long. Vers la Sicile, plus précisément vers Syracuse, avec, il passe là sur une mer très calme, sans aucun problème. Le lendemain matin, il arrive en effet en baie de Syracuse. Syracuse, qui fut si célèbre, n'est plus à cette époque qu'une ville occupant un îlot, qui est l'île d'Ortigie, occupant donc un îlot à la terre, qui est relié à la terre par une jetée. Il ne reste rien de l'ancienne Syracuse, qui était puissante, riche, prodigue, orgueilleuse. Le théâtre grec, voici. Le théâtre grec, dont il reste quelques éléments, se trouve au milieu d'herbes folles, nous dit-il. Et la seule trace du lieu où l'on entendait déclamer des vers d'Eschyle et de Sophocle. Il paraît que les Perses d'Eschyle ont été joués pour la première fois au niveau de ce théâtre. Mais j'étais pas, hein, je sais pas. De l'autre côté, il descend vers les Latomies. Les Latomies, ce sont des carrières qui se trouvent à Syracuse et où sont morts 12 000 Athéniens qui, vaincus lors de l'expédition de Sicile, y furent enfermés sans aucune nourriture ni aucune boisson. Ils sont morts dans des conditions atroces. Alors pourquoi, vous me direz, qu'est-ce que les Athéniens venaient faire ici? Tout simplement, ils avaient été pour attaquer les Syracusains parce que les Syracusains avaient soutenu Sparte lors de la guerre du Péloponnèse en 413 avant Jésus-Christ. Et donc, pour se venger, il y a l'histoire d'Alcibiade là-dessous qui faisait des tas de bêtises, mais enfin, c'est un détail. Le guide leur montre dans les Latomies la curiosité de l'oreille de Denis. L'oreille de Denis, c'est ceci, dont la sonorité est prodigieuse. Et notre héros nous dit, le guide disant quelques mots, c'est un roulement de tonnerre qui répond en écho. Et c'est là presque tout Syracuse. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir, à cette époque-là en tout cas. Notre héros voulut cependant voir la fontaine d'Arétuse. La fontaine d'Arétuse, qu'il trouve d'ailleurs très mal entretenue. La voilà, alors je ne sais pas si elle était comme ça à cette époque-là, mais il la trouve très mal entretenue. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine d'Arétuse? Arétuse était une nymphe qui était poursuivie par Alphée, intrépide chasseur. Et elle fut transformée, la voici, c'est elle, Arétuse, et elle fut transformée en fontaine, donc la fontaine que vous venez de voir, grâce à l'intervention d'Artémis, Diane. Et là, vous avez Alphée qui la poursuit. Alors, je dois dire qu'Alphée a été transformé, lui, en rivière, et en fait, est une rivière au départ, et les eaux de la rivière et les eaux de la fontaine se seraient mélangées. Tiens, le soir, il prend le train pour Catane. Alors, nous voilà ici, nous sommes ici, à Syracuse, et il va prendre le train pour Catane, qui se trouve ici. Le soir, il fait cela et il admire le paysage constitué de terres d'agrumes, qu'il admire vraiment. D'autant que, il nous dit ce qu'il en est, au milieu de la profusion de vergers, des vignes, des bois d'oliviers ou d'agrumes, citronniers, mandariniers, orangers, non pas de ces orangers en caisse, venez de France, hein, non pas de ces orangers en caisse, taillés en boules, malingres, où pendent des petites canettes d'un jaune malade, comme des boucles d'oreilles de cuivre, mais de vrais arbres, à la feuille noire et luisante, solidement enracinés dans la terre profonde et arrosée. Voilà, ça, ça l'a frappé. Hein. Après une nuit à Catane, il reprend le train pour Palerme, traversant toute la Sicile d'est en ouest. Hein. Alors j'ai tracé ici, vous voyez, voilà tout le trajet qu'il va parcourir pour aller jusqu'à Palerme. Il traverse donc ce paysage qui est monotone, dit-il, et il ne voit que des terres à blé, à perte de vue, sans arbres, ni haies, simplement, il n'y a pas de route, simplement de rares sentiers, et quelques meules de paille ressemblant à des gâteaux de miel. Au sommet d'une côte apparaît enfin une ville, s'entourée de murailles, Enna. Enna, je ne sais pas si vous aviez vu sur le... Ça va passer. Non, ça ne veut pas, si. Enna, ça se trouve ici. Voilà. Donc, il aperçoit cette ville, hein, cette ville fortifiée. Mais c'est tout. C'est à ce moment-là qu'il se demande, mais les brigands dont on parle tant, où sont-ils? Il s'entendra répondre un peu plus tard, il n'y en a plus, monsieur. C'est de l'histoire ancienne. Nous sommes en 1892, hein, n'oubliez pas. Parce qu'en fait, quand un général, par exemple, vient en mission en Sicile, il s'entendait avec le chef des brigands, moyennant rétribution. Et de ce fait, les brigands laissaient passer et le gouvernement laissait faire. Donc il n'y en a plus des brigands. Cependant, l'une des dernières bandes fut celle des frères Maurini et surtout celle de Leone, qui savait choisir ses victimes. Tel cet Anglais, capturé le 4 novembre 1876, qui fut retenu quelques jours jusqu'à ce qu'il lui fournit une rançon de 65 000 francs, mais qui, chaque matin, avait les journaux et son café. Ou bien encore le baron Sgadaro, qui passa 8 jours dans une caverne où il fut traité comme un seigneur, et qui, devant la cour d'assises, disait « Je n'aurais pas eu à me plaindre si chaque jour de ce traitement ne m'avait coûté la bagatelle de 15 875 francs. » En fait, si l'on creuse... Le procès de Leone eut lieu en septembre 1878. Mais le grand chef Leone n'y parut pas. Pourquoi? Car il était mort. Fusillé comme un lièvre dans un champ de blé en herbe, un jour qu'il s'était rendu, pour affaire, aux environs de Termini. Sa bande seule fut mise en jugement à Palerme. Mais les événements qui marquèrent le procès n'en servirent pas moins la renommée du brigand disparu. Voici ce qui eut lieu. Le 5 septembre 1878, à 8h du matin, 14 des 23 accusés sont entassés dans une voiture cellulaire, mais sicilienne, ce qui modifie beaucoup le sens du premier terme. Parmi eux figurent les meilleurs lieutenants de Leone. Toute la ville, on peut dire toute l'île, et la Calabre, et Naples peut-être, suivent avec passion les débats dans les journaux. On attend encore de très belles audiences. La voiture s'ébranle, escortée de 3 carabiniers, la carabine sur l'épaule. Beaucoup de curieux l'accompagnent. À l'angle de la rue del Papagallo, une rue encombrée et telle qu'on l'eût choisie, le cheval s'abat. Aussitôt, comme si c'était un signal, les cloisons volent en éclats sous l'effort des prisonniers. 8 cellules sont défoncées, 8 prisonniers s'échappent en courant. Les gendarmes ne tirent pas. La foule se met à courir aussi. On ne sait pas bien ceux qui courent pour courir, ceux qui courent pour attraper, et ceux qui courent pour empêcher qu'on attrape. Résultat définitif, 4 évadés repris, 4 rendus à la liberté de la campagne, dont 2 des principaux, Salpietra et Randazzo. En fait, si l'on creuse un peu, il existe bien encore ce que les Siciliens appellent des petites histoires, des histoires de rien. Et notre héros nous rapporte quelques faits. D'abord, il y a les attributs de la mafia. Beaucoup de femmes. Des coups de couteau, des coups de rasoir, des coups de bâton. Et tout cela sous le ciel bleu de la Sicile. D'ailleurs, ce terme de mafia veut dire bien fait. Et on dira d'une femme, d'une fille, qu'elle a de la mafia. Que des fruits sont mafiosi, c'est-à-dire qu'ils sont bien mûrs, qu'ils sont bons. et le mafioso est quelqu'un qui a son étoile, qui va de l'avant et fait fortune par n'importe quel moyen. Mais on ne parle guère de la mafia. On ne s'en occupe pas. Sinon, on vous répond que la Sicile est le pays le plus sûr et le plus policé d'Europe. Et puis, la mafia est prête à vous venir en aide à certaines conditions. Ainsi, trois exemples. Un cavaliere avait besoin d'un jardinier ayant perdu le sien qui était aussi son homme d'affaires. Il avait intérêt à prendre celui qu'on lui proposait, bon ou mauvais, car s'il en prenait un autre, ce dernier entendait bientôt des balles siffler autour de ses oreilles. Autre exemple. Un propriétaire, riche banquier, avait son verger dévasté et volé la nuit. Il demande de l'aide et les dégradations cessèrent aussitôt. Ce sont les mêmes qui avaient agi et qui agissaient maintenant. Mais il avait fallu payer. Sinon. Troisième exemple. Le compère Pepino était harcelé et il veut demander de l'aide à Maître Gaetano. Un mafioso qui, au passage, connaît très bien ceux qui harcèlent ce brave Pepino. Qui a-t-il donc, compère Pepino? Ce que nous avons, Maître Gaetano. Ils ne veulent pas nous laisser en paix, ni jour ni nuit. Vous voyez en moi un homme qui a perdu le repos et qui vient vous demander assistance. Vous avez sûrement des torts, mais nous verrons. Vous êtes père d'une nombreuse famille. Il y a quelque chose à faire pour vous. Oh oui, je vous en prie, faites-le. Vous qui avez de si bonnes façons, personne ne vous dit non. Et je vous confie ma tranquillité et ma vie. Tout finira par une solide paix. Mais, vous le savez bien, pour pouvoir célébrer la conclusion du traité, il faut 300 lires. 300 lires ? J'aime mieux mourir que d'enlever 300 lires à mes pauvres enfants. Et dans les trois jours, la mère cueille le compère Pepino, qui n'a pas voulu payer 300 lires la vie que le malandrin lui offrait à si bon compte. C'est cela, la mafia. Mais les dirigeants sont très respectables et très respectés, car ils ne mettent jamais eux-mêmes la main sur les biens d'autrui. Ils font faire ça par des collaborateurs. Ils jouissent donc de la plus haute considération. Et puis, un mauvais coup est excusable s'il a été bien mené. Quant à la justice, elle se heurte à une puissance redoutable, l'omerta. Il faut savoir se taire. La virita si dici allu confessiori, mais pas aux assises, au confessionnal, mais pas aux assises. Et de plus, on aide même le délinquant, car après tout, le mort est mort, il faut secourir le vivant. Telle est la morale populaire. Par exemple, en 1873, un procès se déroule à Trapani, coups et blessures, vol, 7 ou 8 meurtres, 22 accusés. 24 jours de débat. Voici deux exemples des déclarations de témoins. J'ai perdu les témoins. Vous avez été l'objet d'un attentat. Racontez les particularités du fait. Avez-vous recherché les auteurs? Avez-vous des soupçons? Je n'ai pas de soupçons. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai point cherché à connaître les auteurs et je m'inquiète peu de les connaître. J'étais allé pour quelques jours à Messine. Un soir, comme je rentrais chez moi, on a tiré 3 coups de revolver. Je n'ai vu personne, je n'ai reconnu personne. Il m'est impossible même de dire si les coups ont été tirés sur moi ou sur l'avocat Minetti qui m'accompagnait. Vous a-t-on jamais dit... Un tel faisait partie de la bande. Jamais je n'ai entendu nommer personne. Un autre témoin, Jean Catanzaro, a été attaqué par 5 hommes qui lui ont enlevé ses pistolets. Vous avez connu ces individus?
Non, je les connaissais seulement de vue. Un s'appelait Jean, un autre François.
Et ensuite, vous avez cherché à les connaître?
Je ne les ai plus revus.
Sont-ils parmi les accusés?
Monsieur, je ne reconnais aucun des cinq.
Conclusion, sur les 22 accusés, 17 furent acquittés et rien ne semble en 1892 avoir changé car notre héros suit le Giornale di Sicilia, suit dans le Giornale di Sicilia les débats de l'affaire Villa Rosa. Une triste histoire d'amour que je vais vous raconter, telle qu'il l'a décrite. Un jeune officier a vu à la promenade sur le Foro Italico la jeune Catherine de Villa Rosa. Il est devenu amoureux d'elle. Il le lui a dit par signe, d'abord, à la mode sicilienne, puis il a écrit et ses lettres sont publiées, de longues lettres d'amour respectueuses et enflammées qui commencent souvent par ces mots « Mon indiciblement aimée Catherine ». La jeune fille n'est point insensible aux protestations d'éternelle tendresse que lui envoie Giovanni Leone. Attention, ce n'est pas le même Leone que tout à l'heure, hein, il est mort celui-là. Elle a promis de ne se marier qu'avec lui. Quelquefois le soir, une ombre apparaît au balcon de la maison des Villa Rosa. C'est la servante qui guette un signal convenu. Elle descend, elle ouvre la porte et les deux fiancés peuvent quelques instants s'entretenir à voix basse de leurs amours traversés. Car l'indicibilmente amata a deux frères qui ne veulent pas de ce mariage. Ils jugent Leone trop pauvre et lui ont signifié de ne jamais suivre leur sœur, de ne plus lui écrire, de renoncer à elle pour toujours. Un soir, que la jeune fille n'était pas à la maison, Leone passe devant les fenêtres de son ami. L'ombre apparaît, la porte s'ouvre, le jeune officier entre. Un coup de feu retentit et quelque temps après, le bruit se répand dans Palerme qu'on a trouvé le corps de Giovanni Leone percé d'une balle et un revolver déchargé à côté dans le jardin des Villa Rosa. Assassinat, disent les uns. Suicide d'amour, disent les autres. L'affaire est portée devant la cour d'assises de Palerme. Mais les faux témoignages sont si manifestes et si abondants que le ministère public juge prudent de renvoyer les accusés devant un deuxième jury. La seconde fois, plus de 20 audiences n'aboutissent qu'à des contradictions passionnées. Les témoins, à de rares exceptions près, se préoccupent visiblement de ne rien avancer qui puisse les compromettre. Ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont dit à l'instruction, puis ils se le rappellent et puis se rétractent. On voit l'un d'eux affirmer qu'il ne connaît pas l'un de ses meilleurs amis, le père d'un enfant dont il est le parrain. Il ne le connaît pas. Le procès s'embrouille de plus en plus. Peut-être va-t-on le juger quand même. Lorsqu'au dernier moment, une lettre avertit le président que 7 jurés sur 12 ont été achetés. Le magistrat fait une enquête. Il acquiert la preuve qu'en effet, des jurés ont reçu chacun la moitié d'un billet de 1000 francs coupé avec des ciseaux. L'acquittement survenu, la seconde moitié devait être réunie à la première. Donnant, donnant. Aussitôt, la cour se dessaisit et l'affaire Villa Rosa est renvoyée à la cour d'assises de Naples. Le troisième procès à Naples n'aboutit pas davantage à des conclusions, et au bout de 62 audiences, l'un des Villa Rosa est acquitté, et l'autre, Francesco, condamné à 5 ans de détention pour meurtre accidentel survenu au cours d'une rixe. Voilà. Après ces récits sur la mafia, eh bien, le train est arrivé à Palerme, où de nombreux nombreux peuples ont laissé des traces. Les Grecs, les Sarrasins, les Normands, les Espagnols. Les Normands en particulier y ont apporté la splendeur gothique. Ils visitent la cathédrale, de style siculo-normand, l'extérieur, l'intérieur, avec des mosaïques. Et puis, il visite aussi la chapelle palatine dans le palais des Normands, qui est du même style d'ailleurs. Et puis, il veut visiter aussi la place de la Croix des Vêpres. Alors, l'image n'est pas belle, mais enfin... La Croix des Vêpres, qui rappelle les fameuses vêpres siciliennes. Ces vêpres siciliennes qui datent de 1282 et qui ont été célébrées il n'y a pas très très longtemps par l'opéra de Verdi de 1855, il y a qu'une quarantaine d'années. En fait, pourquoi ces vêpres siciliennes? À l'origine, il y avait une chapelle Santo Spirito qui a été consacrée le jour où il y a eu une éclipse totale de soleil, ce qui était un fort mauvais présage. Or, en 1282, le 30 mars, lors de l'anniversaire de la consécration de l'église, quelqu'un cria « Mort aux Français !» ce qui déclencha une émeute, une révolte, qui dura un mois et fit de nombreuses victimes. Car, ceci, parce qu'à l'époque, c'était la Sicile était sous la domination de Charles d'Anjou, qui n'était pas trop aimé, qui était le roi de Sicile, donc. Et cette révolte fut fomentée par la maison d'Aragon, qui voulait prendre la place, et qui d'ailleurs l'a pris. Se promenant dans Palerme, notre héros remarque qu'il y a un salone de coiffure tous les 10 pas. Mais il apprend que ce sont là des lieux de rendez-vous, de discussion, de combinazione. Il note aussi le physique du Sicilien. C'est un Espagnol né d'une mère sarrasine. Et les femmes ne sont pas belles, mais elles ont des yeux superbes. Il demande à visiter le palais Zucco, où se maria le futur roi des Français, Louis-Philippe Ier. En 1809, il s'est marié avec Marie-Amélie, fille du roi de Naples Ferdinand IV. Et c'est là qu'est né le duc d'Orléans, le premier fils donc de cette union. Le palais n'a rien de remarquable, mais le parc est d'une richesse extraordinaire. On y trouve en particulier des champs de ficodendia. Les ficodendia, ce sont les figues de Barbarie. Et ces figues de Barbarie, on lui dit que c'est absolument délicieux, et c'est vraiment une merveille ces figues de Barbarie. Il n'aime pas ça du tout. Le héros n'aime pas ça du tout. Le soir, il va sur la marina. La marina, c'est là. Je m'excuse, les photos sont mauvaises. Je demande de m'en excuser, mais j'ai voulu essayer de retrouver des photos, disons, qui dataient de la fin du 19e siècle. C'est pas facile. Le soir, donc, il va sur la marina, le long de la mer. C'est une promenade très animée. On voit les gens ici, qui sont sur cette marina. Et c'est très animé, car la haute société palermitaine... Il fait le passeggiata de 8h à 10h du soir. Et on y déguste des glaces grosses comme un demi-œuf d'autruche que des garçons de café apportent même au niveau des calèches. Le lendemain, il part pour visiter Montréal. Alors Montréal, ici, nous avons Palerme qui est là, et Montréal, c'est là, c'est pas très loin. Donc, il va visiter Montréal et, sous la conduite d'un antiquaire dont il a fait la connaissance à Palerme. C'est à quelques kilomètres de Palerme, mais si quelques années auparavant la route était assez dangereuse, pour faire ces quelques kilomètres, en 1892, la route était droite et sûre. Il remarque que des gendarmes sont présents sur le siège d'une voiture postale. Il trouve que la cathédrale est une véritable merveille. La cathédrale de Montréal. De retour à Palerme, l'antiquaire lui fait visiter le cimetière des Capucins. Dans un souterrain, on voit des cercueils vitrés et des cadavres habillés suspendus. Le spectacle de l'horreur. Il y a là 8000 morts de la noblesse qui se sont fait enterrer ainsi de 1835 à 1870. Notre héros est horrifié alors que l'antiquaire trouve que c'était là une belle tradition, hélas abandonnée depuis une vingtaine d'années.
Le soir même, il va partir en prenant le train toujours avec un administrateur des domaines vers le domaine de Tsuko. Alors, il est parti de Palerme, le train, c'est le train noir que vous voyez là, et Tsuko, ça se trouve à peu près par ici, en dessous de Terrazzini. C'est donc dans cette zone-là qu'il y a ce qu'on appelle le domaine de Tsuko, qui appartient au duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, c'est le quatrième fils de Louis-Philippe Ier. Et il avait donc ce domaine. De la station de Tsuko, isolé dans des marécages où règne la malaria, ils partent en break vers le domaine. Le domaine, c'est quelque chose de très étendu, c'est des vignes, tout ça. Accompagnés d'hommes à cheval et armés. Ils s'en étonnent auprès de l'administrateur. Je vous dis quelques mots là-dessus. Qui sont-ils ? Enfin, ces hommes armés, qui sont-ils ? Des vignerons du domaine. Armés ? Sans doute. Pour garder le raisin qui mûrit. Ils vont passer la nuit autour du clos. Nous en avons en ce moment 24 dispersés, deux à deux, dans les vignes. C'est absolument nécessaire. C'est très utile. Et les propriétaires voisins, même les petits, montent comme nous la garde autour de leurs raisins. Et ils tirent quelquefois. Oui, des lapins qu'ils prétendent renards. En fait, il y a dans le coin de grandes propriétés comme celle de Tsuko, et il y a des luttes entre quelques grands propriétaires, et quelquefois, ça aboutit à des affaires, telle l'affaire Arrigo, qui se déroula en 1890, il y a 2 ans, autrement dit, et que nous raconte non pas un Sicilien, mais un ingénieur de la région de Bari. Je vous lis cela. Ceci se passait en mai dernier, dit-il, à Termini. Termini, c'est une ville qui se trouve à l'est de Palerme. À Termini, une ville de 23 000 habitants, à 1 heure de Palerme, sur la ligne de Catane. Le 25 mai 1890, vers 7 heures du matin, un des plus riches négociants en produits agricoles, M. Philippe Arrigo, sortait de sa villa toute proche de Termini. Il allait, si je me souviens bien, visiter une propriété qu'il venait d'acheter, monté sur un cheval, la carabine Vetterli sur l'épaule, accompagné de son fermier, également armé, et d'un fils d'une douzaine d'années qui chevauchait sur un âne. Arrigo aperçoit 2 hommes qui s'avancent sur la route. « Tiens, papa, des carabiniers !» dit l'enfant. « 2 beaux gendarmes, en effet. » Le maréchal des logis a même des chevrons superbes. Il s'approche du cavalier et demande les ports d'armes. Puis il ajoute. « Vous n'avez pas vu des brigands ?»« Non, » répond Arrigo, le malheureux. Il envoyait des brigands. Au même moment, 3 autres carabiniers de la même brigade et 3 civils qui n'en valaient pas mieux enveloppent les promeneurs. Vous saurez, monsieur, que c'est un tour classique des brigands siciliens d'opérer un habit de gendarme. Tout le monde voit ce que c'est. Le fermier abandonne son fusil, Arrigo remet sa carabine Vetterli, il veut même descendre le cheval. « Inutile, » dit poliment un des brigands, « que votre seigneurie ne prenne pas cette peine et ne s'incommode en rien. » 2 chasseurs de caille, non loin, qui passaient non loin, on leur fait signe, car les témoins à charge sont toujours désagréables. Et, « Hé, mes seigneurs, vos permis !» On les désarme comme les autres. Un paysan croise la troupe. On l'emmène aussi, mais pas très loin. Tout ce fretin, fils, fermier, chasseur, est laissé dans une cabane avec cordes sous peine de mort de n'en sortir qu'à la nuit. Et les brigands continuent leur route avec M. Arrigo, la capture sérieuse. Qu'en ont-ils fait ? Ils l'ont d'abord conduit, les yeux bandés, à travers les montagnes, puis descendu dans une grotte admirablement choisie. Quand Arrigo fut en sûreté, les brigands s'occupèrent de la rançon. Les premières prétentions furent exorbitantes. Ils demandèrent 400 000 francs. Malgré les difficultés de la situation et l'évidente inégalité des contrevenants, des contractants, Arrigo parvint à obtenir une transaction. Il écrivit une lettre avec une bonne plume trempée dans la poudre délayée d'une cartouche de brigand et l'affaire fut conclue. La famille verserait 125 000 francs, 50 000 en or et le reste en billets ou en titres. Et la somme reçue, Arrigo serait relâché. Ce qui fut fait.
Comment ? On n'a pas arrêté ces misérables au moment où ils venaient toucher l'argent ?
On s'en serait bien gardé. C'eût été prononcé l'arrêt de mort immédiat du pauvre séquestré.
Non, monsieur, on procéda comme à l'habitude. La question s'éloigna volontairement. Les 120 000 francs furent versés aux mains d'un ami de la famille qui les remit à l'un des brigands. Et après 20 jours de détention, l'honorable négociant, qui pendant tout ce temps n'avait eu pour se nourrir que du pain noir, du fromage et du vin de Marsala, fut remis en liberté, bien las, mais bien content, un soir, au milieu de sentiers inconnus. Notre héros revient donc à Palerme, où il s'y trouvait le 3 septembre, lors de la fête de Sainte Rosalie, patronne de Palerme. À cette occasion, a lieu un immense défilé de charrettes jaunes serins à filets rouges, et taches vertes, et décoré de thèmes variés, mais pas toujours religieux. Ici, c'est un thème religieux qu'il y a sur la charrette qui est là. Mais ce n'était pas toujours le cas. On pouvait y trouver le cheval de Troie, l'enlèvement d'Europe, Roland, Charlemagne, le couronnement du roi Roger, qui est un des rois normands, il était apprécié, le débarquement des Milles à Marsala, qui avait lieu quelques 30 ans plus tôt, Bonaparte à Arcole, l'entrée de Napoléon III en Italie. Les palermitains connaissaient tous ces événements et légendes par des marionnettes qui sont très prisées, qui étaient très prisées à Palerme. Et par les cantastorie, qui sont des conteurs de rue. La procession, elle, monte lentement et jusqu'au Mont Pellegrino, qui est un sommet où se trouve une grotte où mourut Rosalie en écoutant les chants célestes. Et alors, le pèlerinage monte jusque là-haut. Voilà. Le lendemain, après-midi, il reprend le train dans la même direction que l'avant-veille, mais pour aller visiter le site de Ségeste. Alors effectivement, il va reprendre le train, il va repasser là où il était passé la veille, et puis il va aller jusque dans cette zone-là, Ségeste se trouve là, et il vient jusque ici, à la gare d'Alcamo Calatafimi, qui est l'unique gare qui existait à cette époque. Il descend donc à cette gare et où une calèche et un caporal garde envoyé par l'administrateur de Tsuko va l'accompagner. Il traverse donc la calme petite ville féodale de Calatafimi après avoir déposé les bagages à l'albergo central. Et voilà cette petite ville. L'image est très vilaine, mais c'est tout ce que j'ai trouvé de cette époque. Il continue vers Ségeste, qui se trouve à plus d'une lieue. Vous avez vu, c'est loin quand même de Calatafimi. La route surplombe un ravin plein de brume, pas une maison, pas un passant. Et c'est vraiment un chemin plus qu'une route que nous avons là. Au fond de la vallée, la calèche s'arrête, mais ceux qui devaient les accompagner au-delà avec des ânes n'étaient pas là. Malgré les appels répétés du caporal garde, il n'y avait personne. Un jeune misérable de 20 ans arrive et se propose de les accompagner à pied dans les chemins marécageux, où règne la malaria. On dit « un homme qui couche ici est un homme mort, et celui qui passe, j'espère que Dieu nous gardera ». Après être remonté dans le après la descente, là, ils remontent et ont alors une vue du temple. Voilà, ce temple de Ségeste. Une vue du temple qui est absolument remarquable et dont il nous donne une petite description, telle qu'il l'a vue à ce niveau-là. La ruine est encore lumineuse. On est le soir, hein, n'oublions pas, il a pris le train le soir. La ruine est encore lumineuse. Dire par quelle merveille, par quel jeu de reflets, si c'est de la première lueur de la lune ou de la dernière du soleil, je ne le pourrais pas et je ne l'ai pas cherché. Mais à 200 mètres devant nous, sur un tertre tapissé de fougères, comme sur un socle d'or bruni, les hautes colonnes se dressent, caressées d'un rayon et pâles dans la nuit. D'autres fuient de chaque côté du fronton en teinte décroissante. Les montagnes forment derrière un écran sombre, et cette pensée humaine, demeurée debout et seule dans ce désert, semble être devenue le centre, la raison et la gloire de tout le reste. Ils descendent jusqu'au niveau de la ruine, sur un sol inégal, et là, il est écrasé par ces constructions énormes. Subitement devenue grise, vu l'heure tardive. Ils retournent à la calèche, dans la nuit profonde, et trois quarts d'heure plus tard, ils ont rejoint Calatafimi. C'est avec regret qu'il quitte Palerme. Il est revenu ensuite à Palerme, et c'est avec regret qu'il quitte cette ville et reprend le train qui le ramène à Catane. Je vais prendre le train dans l'autre sens. Tout à l'heure, on parlait de Termini, Palerme est là et Termini est ici. Il va donc reprendre le train pour redescendre vers Catane. Et ceci le lendemain. En approchant de Catane, il observe que les vendanges ont commencé. Et du train, il voit les pentes de l'Etna avec ses nombreux petits villages et ces petits bâtiments isolés, toujours en danger. Quand le géant se secoue, les perles tombent. La dernière éruption eut lieu en 1886. Et comme il s'apprête à faire l'ascension à l'hôtel de Catane où il réside, il lit le compte-rendu de cette éruption qu'en a fait un ingénieur qui l'a vécu. Des explosions, des coulées de lave qui avancent. Les habitants se sauvent, sauvent leur mobilier et le vin des celliers. On invoque Sainte Agathe et on sort les statues des saints protecteurs. Vous savez, c'est ceux qui m'ont entendu parler de l'Etna, j'avais parlé de ces saints protecteurs et de Sainte Agathe. En particulier dans la région de Nicolosi. Nicolosi, voilà, ici nous avons Catane, et Nicolosi est ici. Le sommet de l'Etna étant là. Et le soir du 26 mai 1886, le spectacle des courants de lave s'avançant vers la ville était effrayant. Une nuit obscure, des fleuves de feu marchaient avec une vitesse de 50 mètres à l'heure, sur un front très élevé. Les flots se superposaient aux flots et semaient l'épouvante. On voyait des vignes, des arbres, des murs disparaître sous des bancs de lave d'une épaisseur de plus de 10 mètres. Déjà, deux maisons de paysans s'y étaient abîmées, sans laisser de traces. On apercevait, éclairées par une lueur, par la lueur des torches et celle des laves incandescentes, des groupes de curieux accourus pour considérer ce spectacle. Au lever du soleil, le bras qui menaçait les altarelli, c'était des petites constructions, des petits autels qui se trouvaient au-dessus de Nicolosi, avait presque atteint l'oratoire. Et si les laves parvenaient à le détruire, cela équivalait, dans l'esprit du peuple, à un véritable décret de destruction de Nicolosi. Or, contre toute prévision, le bras de lave, arrivé à quelques mètres des altarelli, ralentit sa course déjà peu rapide, se tasse et grandit en hauteur. Puis, au moment où les assistants s'attendaient à être témoins de la catastrophe, un ruisseau de feu se détache du flanc de cette masse et les laves changent de route, se dirigeant vers la vallée de Saint-Nicolas-l'Arena. Les altarelli demeurent intacts et entier. C'était un miracle. Mais le 31 mai, donc la suite de cela, là c'était le 26 mai, le 31 mai, une autre coulée menace Nicolosi à nouveau. Elle n'est plus qu'à 300 mètres du village et l'évacuation décrétée des habitants se fait avec les statues des saints protecteurs. Mais une fois de plus, La coulée ralentit et s'arrête. Nicolosi n'est pas enfoui. Après 13 jours d'exil, les habitants reviennent dans leur foyer, ramenant les statues et faisant éclater des feux d'artifice, comme c'est toujours le cas en Sicile. Or, en septembre 1892, l'Etna fume tranquille. Mais le 11 septembre, il ne peut pas faire l'ascension, parce que son intention c'était de faire l'ascension, car l'Etna a son béret, c'est-à-dire qu'il y a des nuages, il y a trop de nuages. Alors notre héros décide d'aller visiter Assiréale, qui porte le nom d'Assis. Alors Assiréale, c'est ici. Il est à Catane, donc, et il va venir à Assiréale. Il y a d'autres lieux qui s'appellent Assis, Assis Catena, Assis Sant'Antonio, Assis Castello, etc. Pourquoi c'est tous ces noms qui portent, tous ces villages qui portent le nom d'Assis? Eh bien, c'est en souvenir de celui que toi, Polyphème. Polyphème, c'était ce cyclope qui était en Sicile et qui est connu dans l'Odyssée d'Ulysse, hein, puisqu'il lui a joué un sale tour en disant qu'il ne s'appelait personne, etc. Donc, en tout cas, Polyphème a tué ce pauvre Assis. Pourquoi? Parce que il aimait Polyphème. Était l'amant de Galatée et Assis aimait Galatée. Alors évidemment, Polyphème, ça ne lui a pas plu du tout. Et par conséquent, il l'a tué. Alors, elle a été transformée en fleuve. Et voilà ici Galatée qui est transformée. Et ici, vous avez Polyphème qui se trouve là. Voilà, donc l'histoire de Polyphème qu'il a admiré. Donc, de l'histoire de Galatée, pardon, qu'il a admiré à Assiréale. Mais le lendemain matin, l'Etna est sans nuages et avec son compagnon, avec un compagnon, il part à Nicolosi pour avoir un guide qui leur permettra, voilà la même carte tout à l'heure, qui leur permettra donc d'aller jusqu'à Nicolosi. Donc c'est une calèche en fait qui va les emmener là-bas. Il va falloir 2h30 quand même pour faire ce trajet entre Catane et Nicolosi. 2h30, ça monte, faut dire. À 700 mètres, il est à 700 mètres d'altitude là-haut. Là, tout est en lave sombre, donnant à l'ensemble un air fané, triste, éteint. On cherche le guide, parce qu'à partir de là, il fallait avoir un guide. On cherche le guide qui est allé vendanger. En effet, c'est l'époque des vendanges, on l'a vu tout à l'heure, qui est allé vendanger, et c'est un des 9 guides du club alpin italien qui peut permettre, c'est un des 9, qui peut permettre l'ascension à l'Etna, la grande ascension. Enfin, Antonio Carbonaro, guide coiffé d'un chapeau pointu à plumes bleues, arrive. Ils partent sur 3 mules. Avec vivres et couverture, car ils ne reviendront que le lendemain. Le fils de Carbonaro les accompagne, mais il montera à pied pour avoir plus tard le diplôme de guide. Le chemin est tout de lave et des monticules de 100 mètres de part et d'autre, formés lors d'éruptions précédentes, sont à flanc sombre avec peu de végétation, mais des sommets dénudés. Au sein de cette zone, tout est silencieux. Pas de torrent, pas de troupeaux, pas d'oiseaux. À 1500 mètres, ils arrivent à la Casa del Bosco. Alors, c'est pas marqué parce que c'est juste une casa, ça doit se trouver à peu près dans ces zones-là. Ils arrivent à la Casa del Bosco, qui est une station météo. Oh, très modeste. Il y a un moulin à ailettes et il y a une lunette aux pierres accommodées avec des ficelles. C'est tout. À 2000 mètres, il n'y a plus que quelques fougères. Mais notre héros trouve charmant cet Etna lugubre. Il croise des tailleurs de neige qui redescendent avec des sacs de neige glacés avec des feuilles vers Nicolosi. D'où des charrettes à Nicolosi, des charrettes prendront ces paquet de glace avec des feuilles pour les descendre à Catane. Et cette neige glacée, eh bien, permettra d'assurer la fabrication des granites. Vous savez, tout à l'heure, il mangeait des glaces, etc. C'était à Palerme, mais là c'est pareil. Mais il n'y avait pas de réfrigérateur ni de congélateur à l'époque. Hein. Donc il fallait bien trouver un moyen. Au-delà de cette réserve de neige, qui se trouve dans une cavité, hein, réserve de neige se trouve dans une cavité, il n'y a plus que de la roche sans végétation. Voilà l'aspect que ça peut présenter. Mais il voit le sommet qu'il admire. Il nous décrit ce qu'il voit. Je n'ai rien vu de plus saisissant que ce sommet de l'Etna. Je ne sais s'il est possible de se représenter, sans l'avoir une fois contemplé, cette longue plaine onduleuse, légèrement montante et toute formée de dunes de sable noir à gros grains. Pas un arbuste, pas un caillou blanc sur l'étendue de ces vagues sombres. Un silence de mort. Et pour horizon, à droite et à gauche, deux remparts de cimes inégales découpées sur le ciel de même couleur de fumée. On éprouve un malaise étrange à sentir le soleil impuissant. Il brille et rien ne lui répond, rien ne lui, et rien ne fait ombre autour de soi. On erre dans un paysage nocturne avec une lumière inutile au-dessus. Un seul point semble avoir pris pour lui toute la vie et toute la couleur de cette vallée infernale. C'est devant nous, loin encore, le cratère de l'Etna. Il s'enlève nettement sur le noir de la terre et sur le bleu de l'air. Il est rayé de cannelures jaunes qui sont des coulées de soufre, et l'on dirait une haute colline labourée portant au creux de ses sillons des lames de colza fleuri. Voilà comment il voit cette Etna pour la première fois. Après le passage glacé, donc, ils arrivent à la Casa Inglese, observatoire situé à 3000 mètres. C'est là qu'ils vont passer la nuit, grâce à l'hospitalité du professeur Bartoli de Catane, qui décrit ce lieu comme extraordinaire, mais habitable que de juin à septembre, sinon il est sous la neige. Ils se couchent dans le froid, 3 degrés, il fait 3 degrés. Et à 2h30 du matin, Antonio Carbonaro, leur guide, les réveille pour faire l'ascension du cratère, à pied cette fois. Ils partent. À la lumière d'une lanterne, il y a des nuages qui, un instant écartés, permettent d'admirer le cône du cratère 300 mètres plus haut. Mais les nuages se rejoignent. On continue de monter, mais bientôt on ne voit plus rien. Il faut renoncer et redescendre à la Casa Inglese sous la pluie. Il ne reste plus qu'à regagner Nicolosi, et à dos de mule, puis Catane en calèche. Le pauvre, il n'a pas eu de chance, parce qu'en fait, il n'a pas pu faire l'ascension qu'il espérait en faire. Il partira de Catane le lendemain pour gagner Messine par le train. Effectivement, il est revenu à Catane, hein, et il va remonter ici, par le train toujours, tout ça se fait par le train, jusqu'à Messine. Messine, cette ville sans éclat, avec des maisons cossues de gens arrivés. Le port fermé par une presqu'île avec son château et sa raison d'être. Car de nombreux bateaux circulent dans ce détroit séparant la Sicile et la Calabre, qui semble toute proche. Voilà ici c'est le port de Messine. À Messine, ce qui frappe en ville, ce sont les écrivains publics, avec le haut de forme, la redingote, la petite table, la plume d'oie, comme il y a 50 ans à Paris. Alors, je n'ai pas trouvé d'écrivain public de Messine, mais voilà, en voilà un à Paris, mais qui était 50 ans plus tôt, hein, nous dit-il. La clientèle de ces écrivains publics, des filles qui écrivent à leur promis, des paysans qui ne savent pas écrire, des gens du port, des soldats. Messine reste avec ses traditions, même si le nouveau code Unité de l'Italie oblige, hein, parce que l'unité italienne a eu lieu, et les magistrats venus du Piémont, de Toscane, autant que du Midi, n'ont pas les indulgences du vieux sang sicilien. Ici, on compte toujours avec les anciens systèmes de mesure. Mais si l'on dit que tout cela tient au fait qu'il y a 80% d'illettrés en Sicile, on vous répond que c'est très exagéré, qu'il n'y en a pas plus de 70%. Le Messinois pense que faute d'avoir des céréales et du bétail qu'il doit importer, il fournit les plus beaux citrons et les meilleures oranges qu'il expédie en France, dans les pays d'Europe et même aux États-Unis. Palerme et Catane en font autant. Il ne reste plus aux Siciliens que des rebuts dont ils font de la marmelade que les Français achètent aux Anglais. Dixit, un consul d'Allemagne à Messine. Messine exporte aussi le vin de Sicile, dont les crus célèbres comme Marsala, Zucco, Corvo Bianco, le Muscat de Syracuse, sont connus et appréciés, mais qui n'ont pas, selon notre héros, la belle humeur de nos vins français. Il faut ajouter que Messine prétend n'avoir jamais connu le brigandage. Pas plus que Catane ni Syracuse. Les brigands, ils sont à Caltanissetta, Trapani, Palerme. C'est par là, vers l'ouest. Hein. Notre voyageur va alors quitter la Sicile, à Messine, pour passer à Reggio. Reggio de Calabre, hein, qui se trouve de l'autre côté. Je n'ai pas de carte à vous montrer, mais c'est sur le continent, et il attend donc un des deux bateaux, il y a deux bateaux, qui, des compagnies rivales d'ailleurs, qui font monter un maximum de passagers, et il faut près d'une heure pour faire le trajet qui paraît pourtant à faible distance. Arrivé à Reggio, il est très étonné de voir que partout dans toute la ville, on danse la tarentelle, sans discontinuer. Les uns, les unes, prenant la place des autres, au son du tambour, accompagnant biniou, guitare ou flûte. Et tous les danseurs sont en costume bigarré. Voilà, tarentelle. Invité chez un Sicilien, négociant en agrumes et habitant Reggio, dans une maison du balcon de laquelle on voit les côtes siciliennes, dominées par l'Etna, les côtes siciliennes et puis l'Etna derrière, par les côtes siciliennes, dominées par l'Etna, notre héros lui dit. Bien curieuse votre Sicile, et bien différente de la terre italienne. Il fit un signe d'assentiment et répondit. C'est un royaume. Trop petit pour avoir un roi. Alors ses yeux brillèrent, et rapidement, la voix plus émue, il dit « Oui, monsieur, trop petit. Je n'attends pas de révolution. Je n'en désire pas. Mes opinions n'ont que faire ici. Mais il est bien vrai pourtant que cette race est à part et que son rêve séculaire a été l'indépendance. Rêve nébuleux, sans doute, que bien des gens ne formulent pas, mais qui demeure au fond des âmes et les rend volontiers impatientes du joug. Nous avons subi toutes les dominations. » Ou plutôt, nous avons été convoités comme une belle et riche proie par toutes sortes de maîtres, exploités par chacun d'eux, jusqu'au jour où un rival heureux le chassait et le remplaçait. Mais aimé, je vous le demande, qui nous a aimés? Qui nous a compris? Qui a vraiment eu un cœur sicilien parmi nos maîtres? Peut-être les rois normands, Roger et les autres, en qui paraît s'être incarnée la poésie de la Sicile. Le peuple a gardé chèrement leur nom. Depuis, on nous a trop laissé voir que nous étions surtout une source de revenus. Les Bourbons, par exemple, nos derniers souverains, qui avaient à Naples de si chauds partisans, ont laissé en Sicile un bien moindre souvenir. Ils habitaient presque toujours loin de nous. Mais aujourd'hui, que la Sicile n'est plus qu'une province du royaume d'Italie, son rêve, que devient-il ? Mon hôte leva les yeux du côté de l'Etna, dont la fumée allait rejoindre de gros nuages noirs, rajusta ses lunettes pour se donner le temps de répondre, puis se retourna brusquement vers moi avec un sourire. La Sicile est toujours la Sicile, mon cher monsieur. Le voyage se termine et notre héros doit reprendre un navire qui vient d'Égypte pour aller à Naples. Mais ce navire passe sans faire escale. On apprend qu'il y a un cas de choléra sur le bateau. Heureusement, un autre bateau venant de Malte s'amarre à une bouée et c'est une foule de barques qui fait le va-et-vient entre le bateau et le quai car il y a 250 militaires italiens qui montent aussi à bord pour aller à Naples et que notre héros trouve 10 fois plus calme que les zouaves français. Et de plus, les officiers leur parlent assez paternellement, sans crier. Et ça, ça l'étonne. Au sortir du détroit, il observe le rocher de Silla, couronné par un château, mais n'a nullement vu celui de Charybde, qui se trouve là. Ils sont passés là, mais il n'a pas vu Charybde. Quant au Stromboli, il ne présentait aucune activité. Le lendemain, il arrive en baie de Naples, d'où il admire le Vésuve. Il arrive en baie de Naples et on voit le Vésuve au fond. Quand il débarque, la ville est en effervescence, car nous sommes le 19 septembre et c'est la Saint-Janvier. Il va vers la cathédrale où la foule s'agite sans guère s'occuper de l'office. On entre, on sort, on cause à demi-voix. Presque personne ne prête attention à l'office solennel que chante dans le chœur le chapitre en violet. Les femmes montées sur des chaises, les hommes du port à tête de forban, les filles du peuple aux tailles souples vêtues de longs châles et qui passent se donnant le bras et jouant de l'éventail, regardent tous vers la chapelle de droite, si riche, si vivement éclairée par la lumière des cierges et comble de fidèles et de curieux. C'est là que se trouve exposée l'ampoule de cristal, où chaque année le sang de Saint-Janvier se liquéfie. C'est là qu'au premier rang se tiennent les femmes du môle, arrière-cousines du martyr, prétendent-elles, et dont j'entends les voix aiguës dans les grandes ondes de chant qui nous viennent. Vers 10 heures, le miracle n'a pas eu lieu. Une heure de retard. Les gens sont inquiets, car c'est mauvais présage. On a peur que la ville ne soit détruite par le Vésuve. Mais brusquement, des voix s'écrient « Effato, effato !» Alors, on chante le Te Deum, le canon tonne, la foule au dehors se déchaîne et les rues sont pleines de gens. Tous ces gens sont pleines de gens qui n'ont pas de gêne à parler napolitain, ce qui n'était pas le cas après 1860. D'ailleurs, on écrit même des essais en tout genre en dialecte napolitain maintenant. Par ailleurs, à Naples, il y a toujours une fête quelque part. Et ce sont des décorations, des lumières, une foule grouillante qui se déplace et chaque quartier rivalise pour faire pâlir de jalousie le quartier voisin. C'est là que se termine le voyage de notre héros. Il reprend le bateau pour rentrer en France. Mais ce héros, dont je vous ai caché le nom jusqu'ici, qui est-il donc ? Il s'agit d'un auteur relativement peu connu et dont le nom est connu. Oui, c'est René Bazin, qui est le grand-oncle d'Hervé, qui est beaucoup plus connu, bien sûr. Le vipère au poing, Folcoche, la mort du petit cheval, etc. René Bazin, oui, il est connu, mais pas très connu quand même. Tout à fait. René Bazin est en effet né à Angers le 26 décembre 1853. Il a fait des études à l'Université catholique d'Angers et fut fidèle à sa ville natale, puisque c'est là qu'il écrivit la plupart de ses œuvres d'ailleurs. Il s'est marié en 1876 avec Aline Bricard, dont il eut 2 fils et 6 filles. Juriste, professeur de droit, romancier, journaliste, historien, essayiste et auteur de récits de voyage, il est entré à l'Académie française en 1903. Le voilà un peu plus âgé. Il a écrit de nombreux romans, une cinquantaine à peu près. En fait, les premiers ont été sous forme de feuilletons. Il a écrit Stéphanette en 1883, sous forme de feuilleton pour un journal, et Ma tante Giron en 1885. Et c'est ça qui lui a ouvert les portes du monde littéraire. Beaucoup de ses romans ont pour cadre le milieu rural, c'est le cas de La Sarcelle bleue, La terre qui meurt, Le blé qui lève. Voilà. Et c'est un hardi défenseur des traditions religieuses. L'Isolé, David et Biraud, et Magnificat, qui est son dernier roman qu'il a écrit en 1931. Et puis, les valeurs patriotiques, il a mis en valeur aussi. Et c'est Les Oberlés, écrit en 1901 pour les Oberlés, après la défaite de 70. Et d'autre part, Les Nouveaux Oberlés, qu'il a écrit en 1919, après donc la Première Guerre mondiale. René Bazin fait partie de ce qu'on appelle les 4 B, c'est-à-dire René Bazin, Paul Bourget, Henri Bordeaux et Maurice Barrès, auteur de référence des milieux traditionalistes de l'époque. Le voilà un peu plus âgé, peu de temps avant sa mort. Il a bien sûr aussi écrit des récits de voyage, à l'aventure. Sicile, voilà le bouquin que j'ai lu et dont je vous ai rapporté les faits, qu'il a écrit en 1893, à la suite de son voyage en 92. Il a écrit aussi Les Italiens d'aujourd'hui, Terre d'Espagne, qui a été Grand Prix de l'Académie française, Croquis de France et d'Orient, Nord-Sud. Il est mort à Paris le 20 juillet 1932. Grâce au récit de René Bazin, nous avons pu, ce soir, faire un voyage en Sicile à une époque complètement révolue. Mais si on y réfléchit bien, certains aspects restent encore bien actuels, je pense. Je vous remercie. J'ajouterai simplement que je me suis inspiré de ce livre que je ne connaissais pas, et c'est Daniel Petit-Imbert qui me l'avait prêté. Et alors je remercie Daniel Petit-Imbert, je crois qu'on peut la remercier aussi, puisque c'est grâce à elle que je vous ai fait ce topo. Bon, les images, je m'en excuse, ne sont pas très très belles. Je terminerai quand même sur celle-ci.
Marcel, qui était son compagnon de voyage ?
Je ne sais pas, il ne dit pas quel était son compagnon. Il a eu cet antiquaire qu'il a connu à Palerme, mais l'autre compagnon qui l'a accompagné à l'ascension de l'Etna, je ne sais pas qui c'était. Il ne dit pas qui c'est. Voilà. Donc, je crois que...
Merci, bon. Marcello. Et bravo.
J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé.
Et y a-t-il des questions à poser ? Nous sommes enthousiastes, mais bon, vous pourrez répondre à certaines questions.
À certaines, pas à toutes. Hein.
Oui, mais
d'autant que je suis sorti un peu de mon domaine habituel. Hein. Ça n'avait rien de scientifique ce soir. Comment ?
Nous avons l'occasion cet été d'aller à Dampton. Et il y a d'un côté la pointe de Penerf et de l'autre côté, Michel et moi, une autre pointe qui est tout à fait opposée, et on nous a montré la maison dans laquelle René Bazin a écrit le Magnificat.
Ah bon, d'accord, oui, qui est son dernier roman écrit en 1931. Ah ben voilà, d'accord. Et il a écrit un an avant son décès. Hein.
Il faut dire que ce qui est encore actuel, c'est la mafia.
Exactement. Je dois dire que j'ai voulu un petit peu insister sur ces histoires de mafia qui m'ont beaucoup amusé. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, en plus, c'est très vivant. Bah oui, 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 les descriptions sont très bonnes.
Avec d'autres moyens, mais... Alors,
fasciste, la mémoire dans l'Assemblée. Il me semble que ça s'est passé avant le tremblement de terre.
De Messie.
Ah, il y en a eu plusieurs. Alors, Messine a été détruite à de nombreuses reprises et a été reconstruite. Messine a été reconstruite à très nombreuses reprises. D'ailleurs, il nous dit que Messine n'est pas une ville intéressante pour lui, hein. Et que c'est pas une ville intéressante, qu'il y a des maisons cossues pour des gens arrivés, hein, c'est ce qu'il nous dit. Mais effectivement, parce que c'est, il n'y a pas de trace, disons, de. Mais le grand tremblement de terre de Messine a été postérieur, effectivement.
Oui, je pense que c'est
après 1892. C'est 1908, je crois.
Je crois
que c'est 1908. J'affirmerai pas 1908, mais enfin, c'est au début du XXe siècle.
Merci, ma Marcel. Ah, encore une question.
Lingua, André.
Je voulais dire que Bazin, qui est des romans complètement illisibles aujourd'hui, il aurait dû continuer dans ce genre-là, parce que là j'avoue.
Je veux dire que j'ai pas lu d'autre chose de Bazin. Enfin, pas, j'ai lu des choses de son petit neveu, mais pas de lui. Ah oui, d'accord, oui. Mais je crois que des quatre, c'est le moins connu, hein. Des quatre B. Des quatre B, je crois que c'est le moins connu.
Nous avons bien connu cet auteur. Merci Marcel.
Hein, Richard.
Si vous voulez lire un autre voyage en Sicile, plus ancien, il y a celui de Vivon de Non.
Ah oui, autrement dit, presque encore un siècle avant. Presque. Je dois dire d'ailleurs qu'à la lecture, je vais tout vous raconter, j'ai retrouvé que c'était 1892, mais il n'est pas dit que c'est en 1892. Et je savais que c'était publié en 1893. Alors 92, 91, 90, je ne savais pas. Et c'est seulement parce qu'il y a Saint-Janvier, qui est le je ne sais plus combien, le 16, juillet, 16 août, non, 16 septembre, ou quelque chose comme ça, et qui était, il dit que c'était un dimanche. Alors j'ai été chercher dans un calendrier perpétuel pour savoir en quelle année c'était. Mais sinon, il ne le dit pas. Hein. Il part le 23 août, mais il ne dit pas l'année. Je vous remercie de votre attention.